RTL Info.
Le journal de David Sanchez.
Bonjour à tous. L'avocat de Boulat Chagaïev n'est pas complètement satisfait du jugement rendu par la Cour pénale de Neuchâtel en décembre dernier. Il saisit une nouvelle fois le tribunal fédéral. L'état de la statue du Bas du Raymond interroge à La Chaux-de-Fonds. L'œuvre d'art a été endommagée début décembre par un accident de la route et n'est toujours pas réparée. Plusieurs personnes dénoncent un déficit d'image pour la ville. Sixième derby de la saison ce soir en Swiss League de hockey sur glace entre La Chaux-de-Fonds et Ajoie. Le HCC a perdu les 5 rencontres précédentes, une série noire qui illustre bien la supériorité des Jurassiens. Et du côté de la météo, le ciel devrait rester plutôt couvert aujourd'hui, avec notamment la présence de particules de sable, mais les températures resteront printanières. L'avocat de Boulat Chagaïev fait appel au tribunal fédéral, un recours qui fait suite au jugement rendu le 17 décembre dernier à Neuchâtel à l'encontre de l'homme d'affaires tchétchène dans le cadre de la faillite de Xamax. Dimitri Yafayev a déposé son appel le 23 février dernier. Adrien Juvet, l'avocat, estime que le jugement rendu par la Cour pénale est partial.
Oui, nous estimons que cette affaire n'a pas été traitée de manière objective. C'est ainsi que l'avocat de Boulat Chagaïev motive sa décision de faire appel du jugement rendu en décembre dernier. Le prévenu avait alors été condamné à 30 mois de prison, dont 12 mois ferme. Son avocat plaidait, lui, l'acquittement. Un jugement légèrement plus clément à l'encontre de Boulat Chagaïev, qui faisait suite à des décisions de première et deuxième instance déjà contestées au tribunal fédéral. L'avocat du prévenu estime désormais que toutes les questions doivent être traitées de manière complète et détaillée.
Adrien Juvet, merci de ces explications. Ce dossier est à retrouver sur rtn.ch. Il n'y a pas de foyer de contamination au collège Numadro de La Chaux-de-Fonds. Le dépistage réalisé la semaine dernière a permis d'écarter la crainte d'un début de flambée de Covid-19. Près de 550 élèves et enseignants, soit 95% de l'effectif potentiel, ont subi un test salivaire PCR. Seuls 2 élèves asymptomatiques ont été détectés positifs au coronavirus, en plus des 7 autres cas déjà connus, selon les autorités sanitaires neuchâteloises. Ces cubes colorés et superposés marquent la perspective des automobilistes à la sortie du tunnel du Montsagne à La Chaux-de-Fonds. L'œuvre d'art du chaudfonnier Patrick Honegger au centre du giratoire du Bas du Raymond est l'objet de nombreuses critiques depuis quelques jours. Endommagée le 1er décembre après un freinage manqué d'un camion sur la N20, elle n'a toujours pas été réparée. Une situation que dénoncent certains élus actuels et anciens dans la métropole horlogère. Cette œuvre abîmée présente une mauvaise carte de visite pour cette porte d'entrée de la ville. Alain Hotenin-Girard, conseiller général Vert Libéral.
Ça va être la route d'accès pour Neuchâtel et Chaux-de-Fonds pendant les 8 prochains mois et puis que le train n'y passera plus. Donc tous les pendulaires vont passer jour après jour là-devant et puis c'est l'image de la ville hein, finalement qui est là. On arrive en ville de Chaux-de-Fonds et première image qu'on a devant les yeux, c'est une œuvre d'art complètement démolie et puis je pense pas que c'est forcément ce que souhaitent les autorités et puis les citoyens chaudefonniers de mettre en avant aux futurs touristes pendant les prochains mois. Je crois pas que la question la fondamentale elle est de remettre en cause cette statue. J'entends que c'était quand même un investissement de 250 000 francs, je crois, en 1996. Moi, je pense que simplement, maintenant, les autorités elles doivent réfléchir. Est-ce qu'il faut rénover cette œuvre d'art ou est-ce qu'il faut simplement et bonnement la remettre en cause et puis faire quelque chose de nouveau, justement en lien aussi peut-être avec le nouveau contournement et puis les différentes évolutions qu'il y a eu depuis 1996. Mais je ne pense pas que c'est ni aux citoyens pour le moment de se prononcer sur une éventuelle rénovation.
Alain Hotenin-Girard qui répondait à Léonard Reichen. Vous entendrez la position de l'Office fédéral des routes qui gère la N20 dans nos prochaines éditions. Coup de pression du Conseil national. Par 97 voix contre 90 et 6 abstentions, la majorité bourgeoise invite instamment, c'est la formule officielle, le Conseil fédéral à permettre la réouverture des restaurants le 22 mars. La déclaration n'est pas contraignante, mais elle met une pression supplémentaire sur le gouvernement. D'ici au 19 mars, le Parlement pourrait aussi inscrire dans la loi Covid cette réouverture du 22 mars. Pourquoi ce coup de force ? Écoutez la conseillère nationale UDC Céline Amaudru ce matin à la tribune, c'était à la première heure.
Dès lors qu'on révèle des incohérences, dès lors que des lits aux soins intensifs sont largement disponibles, les mesures contre la liberté individuelle et économique est tout simplement insupportable pour la population. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, la majorité de la commission vous propose d'adresser les déclarations suivantes au Conseil fédéral. Première mesure, changement de stratégie. intensification des tests et des vaccinations. Deuxième mesure, suppression immédiate de la règle des 5 personnes, y compris dans les locaux fermés. Troisième mesure, réouverture des entreprises de restauration, ainsi que des établissements actifs dans le domaine de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport dès le 22 mars 2021. Nous avons assez sacrifié sur l'autel du Covid. Il ne faut pas le laisser nous priver de la vie.
La gauche et la majorité des Verts libéraux se sont opposés, non pas à la réouverture des restaurants, mais aux procédés qui interfèrent dans les compétences du Conseil fédéral. Tous les élus romands de l'UDC, du PLR, du groupe du Centre et des Verts libéraux ont soutenu la déclaration, sauf deux qui ont voté avec la gauche, le libéral radical neuchâtelois Damien Cottier et la PDC fribourgeoise Christine Bulliard. Pourtant, Christine Bulliard est restauratrice.
Je suis la première à vouloir ouvrir notre restaurant, mais le fait de demander le 22 mars, une date qui aujourd'hui paraît possible, mais demain elle peut ne plus être possible car la situation sanitaire, on ne sait pas où elle va. Mais il faut dire que le Conseil fédéral, lui, il parle de l'ouverture du 1er avril. Et pour moi, tout à coup de dire, nous maintenant, le Parlement, on veut prendre les rênes, pour moi, ça ne me paraissait pas opportun et puis pas nécessaire. Parce que vous imaginez que le 22 mars arrive et les chiffres ont augmenté et il faut ouvrir. Ce n'est pas non plus responsable. Vous imaginez bien que j'ai réfléchi longtemps. Mon cœur était bien sûr partagé. Et ouvrir pour fermer, cela ne va pas.
Et cette déclaration du Conseil national qui exige la réouverture des restaurants le 22 mars a inspiré ce commentaire à notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
La majorité bourgeoise du Conseil national a brassé du vent ce matin avec agressivité et sans considération pour les institutions, pour le Conseil fédéral où elle est pourtant majoritaire, pour la population et les cafetiers bien sûr. Une déclaration n'est pas contraignante, c'est un signal, mais il n'était pas nécessaire de rappeler de la sorte que tout le monde souhaite ardemment voir les restaurants rouvrir au plus vite et les libertés être données à la population. Il n'était pas nécessaire non plus de peut-être donner de faux espoirs à la population et aux cafetiers, car la pandémie n'est pas vaincue. Et si une troisième vague devait arriver ici aussi, comme dans d'autres pays voisins, que dira cette majorité aux cafetiers, auxquels elle a fait croire qu'ils rouvriront le 22 mars, si ce n'est sanitairement pas possible? Espérons que lors des nombreux autres rendez-vous prévus jusqu'au 19 mars en lien avec la gestion de la pandémie, le Parlement se montre plus responsable et plus conséquent.
L'indice des prix à la consommation enregistre un timide renchérissement en février. Il a progressé de 0,2% sur un mois, selon le relevé périodique diffusé aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. Les statisticiens fédéraux expliquent cette évolution notamment par la fin de la période des soldes sur l'habillement et les chaussures. Les loyers et les carburants ont aussi pris l'ascenseur. Sur un an, le niveau des prix en Suisse accuse un recul de 0,5%. Le Salon international de l'automobile de Genève est en passe de revenir en 2022 à Palexpo. Les contrats sont en cours de finalisation avec un nouveau partenaire étranger aux côtés de la fondation qui organise l'événement. La 91e édition devrait se dérouler fin février sur une durée un peu plus courte que d'habitude. Reste à savoir également si les constructeurs sont prêts à revenir à Genève. Sandro Mesquita, le directeur général du GIMS, le Geneva International Motor Show.
Ce qui est important surtout, c'est que ce salon doit répondre à l'attente des marques. Donc on doit travailler en étroite collaboration avec les constructeurs, sachant qu'aujourd'hui, le secteur automobile est aussi frappé de plein fouet par cette pandémie. Donc il y a des mots-clés comme retour sur investissement, typiquement, qu'il va falloir aussi intégrer dans nos réflexions. Il faut que le salon de Genève soit réellement perçu comme un levier de croissance par les marques. L'intérêt ne veut pas dire qu'il y a des promesses de participation, donc ça c'est encore autre chose, mais il y a des signaux forts qui nous montrent qu'il y a un intérêt pour Genève, un intérêt pour revenir au salon de Genève en particulier, mais il va falloir encore que l'on fasse notre travail de développer le concept et de le rendre suffisamment séduisant pour attirer les constructeurs.
Des propos recueillis par Benoît Rouchalot. À l'étranger maintenant, un explosif s'est enclenché près d'un centre de dépistage Covid-19 aux Pays-Bas. L'explosion a eu lieu juste avant 7h ce matin à Bovenkarpsel, en Hollande septentrionale. Aucun blessé n'a été signalé selon la police. Des fenêtres ont été détruites et le périmètre a été bouclé. Les services de déminage ont été déployés sur place afin de déterminer si du matériel explosif s'y trouve encore. Le Kremlin a dénoncé aujourd'hui les nouvelles sanctions adoptées par l'Union européenne et les États-Unis à l'encontre de hauts responsables russes. Il les juge, je cite, « absolument inacceptables ». Ces sanctions concernent l'empoisonnement et les poursuites judiciaires visant l'opposant Alexei Navalny. Selon le porte-parole russe, elles nuisent considérablement aux relations déjà déplorables entre la Russie et les Occidentaux. Et une nouvelle insolite pour conclure, un excentrique milliardaire japonais offre 8 tickets à des personnes du monde entier pour l'accompagner dans un voyage de tourisme spatial autour de la Lune, un périple prévu en 2023 avec SpaceX. Yusaku Maezawa était le premier client privé à réserver un vol à bord d'une fusée lunaire développée par l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk. Le montant de l'opération, sans aucun doute astronomique, n'a pas été divulgué. Les candidats devront donc remplir 2 critères, être prêts à repousser les limites de la créativité et aider les autres membres d'équipage à faire de même. Les astronautes en herbe doivent se préinscrire d'ici le 14 mars.
Midi 26.
Sport. Une nouvelle médaille pour Marianne Faton au championnat du monde de ski alpinisme. Déjà sacrée hier dans le sprint, l'athlète de Dombresson a encore conquis le bronze du relais avec ses 2 coéquipières de l'équipe de Suisse, Alessandra Schmid et Victoria Kreuzer, ce matin à Coma Pedrosa en Andorre. Marianne Faton a passé le témoin en tête à Alessandra Schmid au terme du premier relais. Sa coéquipière en a fait de même après le deuxième parcours. Dans le troisième et dernier relais, Victoria Kreuzer n'a malheureusement pas pu résister aux retours successifs de l'Italienne Mara Martini et de la Française Axel Gachet-Morales. Demain, Marianne Faton sera encore engagée dans l'épreuve dite de la verticale. La 6e fois sera peut-être la bonne. La Chaux-de-Fonds reçoit Ajoie ce soir à 19h45 en Swiss League de hockey sur glace. Il s'agit du 6e derby de la saison régulière. Les 5 premiers ont tourné à l'avantage des Ajoulots. Donc, la supériorité des Jurassiens ne se discute pas, Marcel Schwander.
Et oui, le classement parle de lui-même. Ajoie partage la première place avec l'Automne à égalité de points. La Chaux-de-Fonds est 6e avec 29 longueurs de retard sur les co-leaders. Les joueurs de Thierry Paterlini se caractérisent par un exercice en dents de scie. Ils alternent les séries positives et négatives. Ils n'ont pas toujours brillé, par exemple, face aux petites cylindrées, égarant 8 points sur 12 contre Zug Academy. Thierry Paterlini a aussi dû composer, il est vrai, avec un effectif sans cesse changeant, miné par des blessures importantes et avec l'apport toujours aléatoire de joueurs prêtés en licence B.
Nous pouvons admettre que le HC Ajoie affiche une solidité redoutable, Marcel.
Et très redoutable même. Le HCA présente une stabilité d'ailleurs qui fait sa force. On prend les mêmes et on recommence en quelque sorte. Le club s'articule autour de quelques noms incontournables, à commencer par celui de l'entraîneur Gary Sheehan. Il n'y a pas meilleur connaisseur que lui de la 2e division nationale. Il forme avec son assistant Vincent Leschen un duo plus qu'efficace. Là où le HCC ne cesse de tâtonner depuis plusieurs années, le HCA lui dispose aussi depuis maintenant 6 saisons des 2 meilleurs mercenaires de la Ligue. On le rappelle, Jonathan Eisen et Philippe Michael DeVos viennent d'ailleurs de prolonger leur contrat pour respectivement 3 et 4 saisons supplémentaires. Gary Sheehan a aussi le mérite de faire confiance à ses gardiens, à les bonifier. La colonne vertébrale de l'équipe est construite et le reste suit dans un climat a priori très serein.
Évidemment, on ne veut pas être pessimiste, mais le HCC a concédé 5 défaites en autant de matchs cette saison contre les Vouivres Ajoulotte. Est-ce que les Chaux-de-Fonniers ont les moyens d'inverser cette tendance ?
Balle au centre, David, le match est à jouer. Le HCC traverse précisément une bonne phase. Celle-ci se caractérise par une assise défensive retrouvée qui coïncide d'ailleurs, hasard ou non, par la présence du Biennois Stéphane Ulmer et de l'engagement d'un nouveau jeune défenseur, Lucas Matewa. C'est vrai que ces 2 joueurs ne font pas l'équipe à eux seuls, mais pour battre Ajoie, il faudra vraiment afficher de la discipline, croire en ses chances. Sur les 5 derbies, le HCC en a réellement perdu 2 de manière indiscutable. Les 3 autres ont été équilibrés. Le dernier d'ailleurs, c'est soldé par une mince défaite au pénalty.
Merci Marcel pour ces précisions. La Chaux-de-Fonds Ajoie, un match à suivre en direct sur RTN ce soir dès 19h30. Et on finit avec un record en football, celui de Raphaël Nuzzolo. À l'origine des 2 réussites de Neuchâtel Xamax hier lors du précieux succès contre Chiasso, le prolifique attaquant rouge et noir compte 523 matchs dans les rangs professionnels en Ligue nationale. C'est ce qui est indiqué sur le site RTS Sport. Raphaël Nuzzolo a ainsi joué un match de plus que le chafouzois Paulinho. C'est un record parmi les joueurs actifs. Et selon les archives statistiques de la Swiss Football League, le joueur qui compte le plus de rencontres disputées en Ligue nationale final demeure toujours Philippe Perret, l'ancien et fidèle capitaine de Neuchâtel Xamax, à 540 rencontres à son actif.
Le ciel est nuageux, voire couvert, en raison d'une couche nuageuse de moyenne et haute altitude et de la présence de particules de sable sur la région aujourd'hui. Malgré tout ça, les températures sont toujours douces et printanières, semblables à celles d'hier pour cet après-midi. Météo News nous annonce 11 degrés sur le littoral neuchâtelois, 12 degrés dans les montagnes neuchâteloises, le Val-de-Ruz, la Broye, le Nord-Vaudois et sur l'Entre-deux-Lacs, et un maximum de 13 degrés pour le Val de Travers.